nous nous retrouvons pour une série
consacrée. Nous attachons à quatre faits marquants de votre vie.
On passe une demi-heure ensemble pour...
Focus braque aujourd'hui son projecteur.
Focus. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, rappelez-vous, le 12 janvier 2010, un tremblement de terre de magnitude 7 sur l'échelle de Richter frappe l'ouest d'Haïti et notamment sa capitale, Port-au-Prince. Bilan, plus de 220 000 morts, 300 000 blessés et 1 million de sans-abri. Trois semaines plus tard, un effort mondial permet de recueillir plus $1 milliard dans un fonds d'aide. Aujourd'hui, le pays se reconstruit comme il peut. Le chanteur populaire Michel Martelly vient d'être élu président de la République d'Haïti en avril 2011 et dans son programme électoral, il évoque longuement le développement du système éducatif, l'accès gratuit à l'enseignement fondamental, la modernisation et le rééquipement des écoles et lycées suite au séisme, la supervision et l'inspection des programmes scolaires et universitaires. Autant de points qui intéressent notre invité, car il cherche à mettre en place un système de formation par satellite destiné aux enseignants. Jacques Blamont, bonjour.
Bonjour mademoiselle.
Merci d'être avec nous au studio de Canal Académie. Vous êtes professeur émérite à l'Université Paris 6, membre de l'Académie des sciences de France, des États-Unis et d'Inde. Vous avez été le premier directeur scientifique et technique du CNES en 62 et vous êtes actuellement conseiller du président du CNES. Et nous vous devons notamment les premiers satellites français et l'installation de la base de Kourou en Guyane. Je disais en préambule que vous alliez mettre en place un système de formation par satellite des enseignants à Haïti. Il faut préciser que 85% des écoles ont été détruites. Comment est née cette idée justement de faire une formation par satellite, Jacques Blamont ?
Pour moi, c'est une idée assez ancienne. En 1962, vous voyez, il y a maintenant 50 ans, j'ai rencontré un homme avec lequel je suis devenu ami. Il s'appelait Vikram Sarabhai. C'était le fils d'un grand industriel de Ahmedabad, dans le Maharashtra, au nord de Bombay, qui avait été éduqué à l'université de Cambridge, en Angleterre. C'était un physicien spécialiste des rayons cosmiques. Et il avait l'idée que l'Inde, avec son poids immense de 90% d'illettrés, ne pouvait se développer qu'au moyen de la science moderne. Et c'est ce qu'il appelait leapfrogging, c'est-à-dire un saut de grenouille, passé depuis l'état, disons, sous-développé, à l'état développé par un saut au moyen de la science. Et c'est ainsi qu'il pensait que l'espace, nous sommes en 62, pouvait jouer un grand rôle dans le développement de l'Inde, et ainsi que d'autres parties de la science comme le nucléaire, l'électronique. Et il est devenu d'ailleurs le tsar de ces trois domaines, espace, électronique et nucléaire. Et puis, il est mort en 71. Mais entre-temps, nous avons travaillé ensemble, nous sommes devenus donc amis, et je l'ai aidé à commencer le programme spatial indien. J'ai tiré les premières fusées en Inde en novembre 63, et une de ses idées m'a séduit. Cette idée, c'était d'éduquer les masses au moyen de satellites. Et à l'époque, il n'y avait pas de satellites. Il n'y avait pas de satellites de pratiquement télécommunication. Mais l'idée, c'était qu'il y aurait une station centrale, par exemple, mettons, à Delhi, et que de cette station centrale partiraient des émissions qui seraient relayées par un satellite géostationnaire et qui, donc, arroserait les 600 000 villages indiens. Et donc, nous avons fait des expérimentations préliminaires, et je me souviens, vers 1967-68, avoir été avec Vikram dans des villages autour de Delhi, une centaine de kilomètres la nuit, et donc d'avoir regardé des émissions d'éducation provenant de la télévision indienne encore dans l'enfance, au milieu de 100 villageois. Évidemment, c'est une expérience tout à fait extraordinaire. Et nous avions formé l'idée que la France fournirait le satellite. Et effectivement, j'ai vu Madame Gandhi. Madame Gandhi a écrit, à la suite de cette visite, au gouvernement français pour proposer que le gouvernement français mette à la disposition de l'Inde le satellite Symphony que nous avons lancé en 1976. Et le gouvernement français n'a pas donné suite. Mais les Indiens ont continué. Et donc, ils ont commencé avec le satellite INSAT en 1975 à faire des émissions pour 50 000 villages. Et donc, ce programme existe. Il a fait l'objet, par exemple, d'un satellite EDUSAT qui a été lancé maintenant il y a 3 ans. qui est donc un satellite entièrement indien et qui fait exactement ça, c'est-à-dire qu'il relaie des émissions d'éducation à des centaines de milliers de villages. Et donc, lorsque le séisme d'Haïti a détruit une partie des écoles, 85% dont on a parlé, c'est dans la ville de Port-au-Prince, hein, parce que ce n'est pas 85% d'Haïti, mais enfin, il y en a un très grand nombre qui ont été détruites. Et puis surtout, il y a beaucoup d'instituteurs qui ont été tués. Donc ce n'est pas seulement un manque d'écoles, mais c'est aussi et surtout un manque d'enseignants. Et d'ailleurs, il faut comprendre que ces enseignants sont de très bas niveau. Un instituteur à Haïti a, disons, a la formation d'un de nos élèves de troisième. Et donc, il est clair qu'un besoin très important d'enseignants et puis aussi d'équipements. Et j'ai pensé donc que l'idée des satellites permettait, du moins, d'aider, pas forcément de résoudre le problème, mais d'aider. En ce sens qu'on pouvait imaginer que, je ne sais pas, qu'il y ait des centaines de villages qui seraient arrosés par un satellite avec d'excellents enseignants qui seraient nettement au-dessus du niveau de la troisième, qui seraient dans le centre et qui, disons, arroseraient le pays.
Alors merci pour ce petit rappel historique et puis pour pouvoir nous permettre de comprendre un peu dans quel contexte tout cela s'inscrit. Il y a plusieurs questions qui se posent en vous écoutant. On a bien compris que ça s'adresse pour l'instant aux professeurs. Peut-être que par la suite, ça s'adressera aussi aux élèves, ce contenu et éducation. Ce contenu est uniquement scientifique, parce que vous appartenez à l'Académie des sciences. Il y a l'Académie des sciences qui prend ces choses à bras-le-corps, mais il n'y a pas seulement l'Académie. Quels seraient les autres contenus, autres que scientifiques, qui seraient distillés à travers ces satellites?
Tout à fait. L'enseignement est nécessaire dans un grand nombre de branches. Donc, il nous semble qu'il faut diversifier l'enseignement. Mais disons que voilà comment nous pensons que ça peut être organisé. D'abord, effectivement, l'enseignement s'adresserait à ce qu'on appelle, je crois, aujourd'hui la formation fondamentale, c'est-à-dire, au fond, les maîtres d'école, mais aussi à la formation continue, donc à les adultes, c'est-à-dire. Mais il est tout à fait possible aussi qu'ils puissent s'adresser à des enfants. C'est à concevoir. On verra ça un peu dans le détail. La façon dont nous concevons donc cette aide à Haïti, c'est que nous voulons l'appuyer sur un certain nombre de centres qui doivent recevoir les émissions. Alors, ces centres, nous avons choisi ce que les Haïtiens appellent des EFACAP, c'est-à-dire des...
École fondamentale d'application, centre d'appui pédagogique. Je le lis.
C'est ça. Alors, ce sont en réalité ce que nous, jadis, on appelait des écoles normales, au fond, et maintenant aujourd'hui des IUFM, c'est-à-dire, au fond, des centres de formation d'instituteurs. Peut-être j'ai tort de dire instituteurs parce que c'est également un mot qui n'a plus cours. On appelle professeur des écoles, mais je crois que tous vos auditeurs savent ce que c'est qu'un instituteur. Et donc, ces EFACAP sont donc des écoles normales qui forment un certain nombre d'instituteurs. Il y en a quelques-unes dans Haïti. Et donc, l'idée que nous avons, c'est qu'il y aurait, pour l'instant, un centre d'émission à Paris. Si vous voulez, on en parlera plus en détail. Ce centre envoie donc des émissions éducatives qui sont envoyées par satellite et reçues à Haïti.
Dans ces EFACAP.
Dans ces EFACAP. Donc, il faut équiper les EFACAP, chaque EFACAP, avec une petite station de réception, pas grand-chose, une antenne, et puis des ordinateurs, parce qu'il peut y avoir une salle de cours équipée d'une vingtaine ou une trentaine d'ordinateurs pour une vingtaine ou une trentaine d'assistants.
Parce que précisons peut-être tout de suite que l'outil Internet, hein, qui semble de mise, ne l'est pas justement à Haïti. C'est une des raisons pour lesquelles justement vous travaillez à partir des satellites.
Alors, il y a d'autres moyens que le satellite, effectivement. D'abord, il y a l'Internet. Mais il faut savoir que Internet fonctionne très mal dans les pays non développés. Et je peux vous le confirmer d'après l'expérience que nous devons de vivre dans les dernières semaines. Haïti peut dire que l'Internet est, disons, intermittent. Donc, sans doute qu'on peut utiliser Internet dans les villes, peut-être. Mais en dehors des villes, il n'y a plus rien. À Haïti, il n'y a plus aucune connexion. Donc, le satellite est exactement ce qu'il faut pour un pays où il y a une forte ruralité, comme Haïti. Naturellement, il y a d'autres moyens. Il y a le Wi-Fi, disons, la radio, au fond. Et puis la fibre optique. Alors, Haïti, la fibre optique arrive jusqu'au centre de la ville de Port-au-Prince. Et donc, on peut transmettre, utiliser la fibre optique pour une ou deux ou trois stations, une ou deux ou trois écoles, par exemple, ou FACAP. Mais on peut dire que c'est marginal. Et visiblement, le satellite est une assez bonne solution. Alors, je ne connais pas Haïti. Je suis allé qu'une ou deux fois, mais c'est simplement parce que j'ai pensé, lors du séisme, que c'était la solution. Donc, c'est une vue plutôt intellectuelle. Donc, notre plan pour l'instant, c'est d'équiper cette année une FACAP.
Le projet, c'est pour octobre 2011
pour on essaye d'en faire marcher une ces jours-ci.
Mai 2011.
Puis, on ouvrirait 5 au mois de septembre-octobre, 10 à la fin de l'année prochaine. Il y a une cinquantaine d'FACAP dans Haïti. Et le plan d'éducation prévoit qu'il monte environ 90 à 100. Donc, notre idée, c'est qu'on équiperait toutes ces FACAP à un horizon d'ici 15 ans, quand elles seront construites. Maintenant, notre projet est bien financé et il est bien soutenu politiquement. Ça s'est passé de la manière suivante. J'ai eu cette idée et donc, d'abord, j'appartiens au Centre national d'études spatiales. Je me suis dit, je vais commencer par demander le soutien du CNES, ce que j'ai fait et je l'ai obtenu. Mais il faut aussi que j'en parle à d'autres personnes. Et j'en ai parlé à deux de nos confrères de l'Académie, M. Pierre Léna, qui est aujourd'hui, je ne sais pas si vous dire le patron, mais enfin, essentiellement, l'âme
de
l'opération La main à la pâte. Et puis d'autre part, à M. Jean-Didier Vincent, qui est un éminent médecin, et qui est, lui, le patron de l'Université numérique française
francophone,
qui a déployé un enseignement assez important en Afrique sur la santé, c'est-à-dire formation d'infirmières, sages-femmes. Et donc, ces deux amis se sont groupés avec moi et le CNES pour former donc un petit groupe où il y a l'Académie, l'UNFM et le CNES. Et nous sommes en train de négocier avec le grand opérateur spatial Eutelsat pour obtenir de la bande passante gratuite avec des satellites. Notre plan à l'heure actuelle est donc avoir une station qui fonctionnerait ces jours-ci, 5 l'année prochaine, 10 à la fin de l'année.
Quels sont les fonds, l'aspect financier,
nous
bien
avons,
sûr
Nous sommes adressés très officiellement, parce que nous ne sommes pas tout à fait des amateurs en ce qui concerne le financement de la science. Nous sommes adressés à un organisme qui a été fait pour ça, qui est la mission interministérielle d'aide à Haïti. Cette mission est chargée par le gouvernement français de centraliser toutes les demandes et de les financer. Et donc, nous avons proposé une opération en 2 ans, qui est celle à laquelle je fais allusion, essentiellement le déploiement de 10 sites. Après ces 2 ans, le relais sera pris par une organisation qui ne sera pas l'Académie des sciences. L'Académie des sciences n'a pas vocation, pas plus que le CNES d'ailleurs, à faire de l'éducation d'une façon routinière. Il y a un organisme spécialisé au ministère de l'Éducation nationale, un opérateur qui peut faire ce genre de choses. Et donc le plan, c'est d'abord une démonstration dans les 2 prochaines années de la valeur de l'idée et surtout, au fond, un travail de pionnier pour voir où sont les difficultés, parce que les difficultés ne sont pas dans le système de télécommunication ou même le système pédagogique. Les difficultés sont à Haïti, sur le terrain. C'est ça. Et donc, il faut expérimenter sur le terrain pour voir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et puis, au bout de 2 ans, eh bien, nous nous adresserons, via cet organisme opérateur du ministère de l'Éducation nationale, au grand fonds international dont vous avez parlé tout à l'heure, qui a donc, je crois, 1,3 milliard, quelque chose dans ce goût-là, qui est présidé par l'ex-président Bill Clinton. Le Fonds des Nations Unies qui est chargé d'aider Haïti et de regrouper toutes les contributions nationales. Donc, on peut dire que dans les 2 premières années, notre effort sera payé par la France via la mission interministérielle. Et puis après ça, elle sera relayée par le Fonds des Nations Unies. Ce 1,3 milliard, il est constitué des cadeaux. Enfin, je crois que c'est bien plus que 1,3 milliard en réalité. Car la France a contribué pour 350 millions Alors donc, je pense que c'est plus important que ça.
Alors, on arrive, parce que le temps file, on arrive déjà au terme de notre émission, mais quand même, il faudrait qu'on aborde la partie du fond, parce qu'on a bien compris l'aspect technique, la manière dont tout ça...
La partie pédagogique.
La partie pédagogique, effectivement. Vous nous avez parlé du centre à Paris qui va émettre, justement, ses contenus. Comment ça va se passer concrètement, non pas sur le plan technique, mais sur le plan du fond?
C'est très simple. Il existe des groupes qui ont développé ou qui veulent développer des logiciels et, disons, des émissions en boîte éducative. Par exemple, La main à la pâte a fait ça pour la science. Et donc, nous adressons à ces gens-là, bénévolement nous fournissent des émissions. Ces émissions donc, ont lieu à Paris. Elles sont mises en forme par un centre spécialisé à Genève et envoyé après ça directement.
Et le contenu porte, donc, comme on a pu le dire au début, sur les sciences, sur les mathématiques.
Oui, alors,
Quels sont les autres thèmes ?
Il y a plusieurs modules. D'abord les sciences, puis les mathématiques, l'informatique, l'apprentissage du français.
L'aspect santé aussi.
La santé, qui est donc tout à fait l'affaire de l'UNFM. Et puis l'éducation civique. Aussi, l'éducation administrative, comment faire marcher une ville, une commune. Donc, vous voyez que c'est assez vaste. Alors, pour l'instant, nous ne faisons que commencer. On a commencé les premières émissions depuis quelques semaines et ça se passe très mal. Ça se passe très mal parce que...
Vous dites avec le sourire, c'est plutôt bien de le prendre comme ça.
Oui, mais ça se passe très mal parce que les connexions ne s'établissent pas et que, pour l'instant, nous utilisons seulement Internet, mais Internet ne marche pas. C'est baroque, mais c'est comme ça. Nous réunissons 70 auditeurs et puis il n'y a pas de connexion. Alors évidemment, pour l'instant, nous ne sommes pas très contents. Mais en fait, c'est bien ce qu'il faut faire, c'est-à-dire expérimenter, voir où sont les problèmes. Les problèmes ne sont pas dans la ligne Internet, ils sont dans les gens qui l'utilisent.
Eh bien, je vous remercie, Jacques Blémont. Donc, on regardera avec attention comment se développent ces formations par satellite. Alors, on a bien compris que pour l'instant, c'est un peu chaotique parce que tout ne se passe pas forcément comme on le souhaite. Mais petit à petit, vous allez trouver une vitesse de croisière et j'espère, en tout cas, je vous le souhaite, réussir à développer ces formations par satellite pour 3, 4, 5 et voir peut-être, pourquoi pas, ces 90 EFACAP, centres de formation pour les professeurs, afin de leur délivrer des informations nécessaires pour ensuite distillés auprès de leurs élèves. Merci à vous, Jacques Blémont. J'espère à bientôt pour une prochaine émission.